Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Une histoire stupéfiante, incroyable, touchante, bouleversante aujourd'hui. L'histoire d'une femme qui est en face de moi et qui s'appelle Sandra Forgue. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Et pour moi c'est un moment étonnant parce que je vous ai connu avant. Quand vous étiez un homme, aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Je me souviens très très bien de vous avoir interviewé au Club France, juste après votre médaille d'or, quand vous vous appeliez Wilfried Forgue. Vous avez fait, Sandra, un choix extrêmement courageux, à 47 ans, le choix de devenir la femme qu'au fond vous aviez toujours été. Et vous racontez votre transition dans un journal de bord, un livre, paru chez Outdoor, qui s'appelle « Un jour, peut-être ». C'est un livre très riche, je n'ai pas eu le temps de tout raconter. Ça donne en tout cas une histoire extrêmement forte que j'ai écrite avec Lorenzo Caligaro. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le 28 juillet 1996, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, deux Français s'apprêtent à entrer dans l'histoire. Wilfried Forgue et Frank Addison. Ils sont bien partis pour décrocher la médaille d'or dans l'épreuve de canoë biplace.
Il ne faut pas toucher les garçons, restez concentrés. Il faut aller chercher cette médaille d'or, vous la méritez largement. La porte 23, le rappel, parfait. Le stop a été impeccable. Et maintenant la reprise pour aller chercher la porte 24. Allez Franck, allez Wilfried.
Wilfried Forgue derrière, Frank Addison devant. Et ça y est, ils sont champions olympiques. C'est la consécration. Wilfried va se jeter dans les bras de sa femme. Ils sont champions. Le drapeau tricolore s'élève lentement. Sur le podium, Wilfried Forgue a les yeux fermés. À quoi pense-t-il à ce moment-là, ce jeune champion de 27 ans? Parce que quel moment paradoxal tout de même! Une médaille d'or au JO, c'est la consécration absolue de la testostérone. Un truc de mec qui se surpasse. Alors qui peut imaginer que dans 20 ans, Wilfried va devenir une femme? Quand est-ce que ça commence à le travailler, Wilfried? Ce sentiment d'être une fille? Wilfried grandit dans un petit village des Hautes-Pyrénées, au bord de l'Adour, à Gerdres. Des parents profs. Tout petit, il est à la fois dyslexique et gaucher. Comme si le corps disait « ça coince, Wilfried, ça coince ». Du plus loin qu'il se souvienne, il avait quoi, 7 ans? Il était jaloux des filles, de ses cousines, de ses copines. Un jour, sa grand-mère organise un spectacle à la maison. Il se déguise en bonne du curé. Comme tous les garçons de son âge, il a des big gym, vous savez, ces poupées bodybuildées. Mais à côté, il a toujours des poupées et il les habille. Et assez vite en cachette, c'est lui qui s'habille en fille. Au départ, il pique les robes de sa mère et puis très vite, il a besoin d'avoir ses robes. Il les coud lui-même. Une jupe en jean, il la fabrique avec des morceaux de pantalon. Et des tés d'oreiller se transforment en robes tubes. Et puis des bijoux qu'il se bricole. Et quand il joue avec les autres, parfois il y a des gages, vous savez. Et lui, il a toujours une bonne idée. Celui qui perd s'habille en fille, d'accord? Ah, une chose importante, qui est souvent à l'origine d'une incompréhension. Wilfried, quand il était petit garçon et adolescent, n'était pas attiré par les garçons. Il était attiré par les filles. Ça n'était pas sexuel, ce sentiment d'être une fille. Alors comment en vient-il à enterrer la fille qui sommeille en lui jusqu'à devenir champion olympique? Deux choses à savoir. D'abord, Wilfried est bon en sport. Tout petit, au moment de Roland-Garros, il trace des lignes dans sa rue devant chez lui et il rejoue les matchs avec son copain Fredada. Et puis aussi, il collectionne les images Panini du mondial de football. Et au début de son adolescence, il rencontre Frank Addison et un entraîneur qui leur promet de les emmener au plus haut niveau dans le canoë. Et donc son talent rencontre une opportunité. Il la saisit. Deuxième chose, il a un grand frère, Frédéric. Vous savez, le genre de grand frère énervant, qui réussit tout, tout ce qu'il entreprend. Un peu étouffant, en vérité. Alors réussir dans le sport, c'est aussi se hisser à son niveau. Un jour, il est en terminale. Sa mère tombe sur des vêtements de fille dans son placard de canoë-kayak dans le garage.
Qu'est-ce que c'est ça, Wilfried ? C'est rien. C'est des affaires que j'ai mises pour le carnaval.
À partir de ce moment-là, il décide de tout jeter, de tout arrêter, de tout cacher, en se disant « plus tard, je ferai ça plus tard ». Et il intègre le Pôle France de kayak et il se jette à corps perdu dans le sport de haut niveau. À corps perdu. Jamais cette expression n'a été aussi juste. Et à 20 ans, il rencontre Fabienne, avec le sentiment que cette femme au caractère fort va l'aider à tout arrêter, à être un homme. Et il l'aime. Je sais que c'est compliqué à admettre, mais à ce moment-là, dans son choix d'être un homme, il l'aime. Et assez vite, ils ont deux enfants, un garçon et une fille, Delia et Tino. Et après, ben c'est le tourbillon de la vie. La semaine étudiant en maths à Toulouse et tout le reste du temps, les entraînements, les week-ends de compétition, la vie à mille à l'heure. Mais avec de temps en temps, comme des éclairs électriques, comme un coup de couteau dans le ventre, sa féminité qui lui revient. Et il y succombe, hein. Il s'achète des robes, il les met, et puis il les cache et il redevient homme. Et c'est reparti pour le grand tourbillon. Et hop, Wilfried fait un footing. Et hop, il passe la tondeuse. Et hop, il milite pour la création d'un bassin artificiel à Toulouse. Et hop, il fait de la musique. Et hop, il crée un groupe. Mais comment tu fais, Wilfried ? Où tu trouves toute cette énergie ? S'ils avaient su qu'il remplissait sa vie pour ne pas avoir à l'affronter de face. Et au bout de tout ça donc, la consécration, cette médaille d'or olympique aux Jeux d'Atlanta en 1996. Et puis d'un coup, 4 ans plus tard, en 2000, après les Jeux de Sydney, tout s'arrête, fin de carrière. Ça fait un sacré vide, qu'il remplit un peu en créant une société d'informatique avec son frère et en prenant la présidence du comité régional de canoë-kayak de la région de Midi-Pyrénées. Et ça, l'air de rien, ça va beaucoup compter parce que ça lui donne l'occasion d'aller à Paris, souvent. Et à Paris, sa féminité se réveille, de plus en plus intense, de plus en plus violente, de plus en plus incontrôlable. Quand il revient à Gerdre, il remet le couvercle sur tout ça. Mais ça ne va pas pouvoir durer éternellement. Mais ça tient encore pendant 15 ans. Et puis un jour, Fabienne, sa femme, tombe sur ses vêtements de femme. Pendant une semaine, elle ne dit rien. Et puis elle craque. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Et il lui dit tout, tout. En vérité, elle s'en doutait. Et donc, ils se séparent. Et lui, il décide d'être heureuse s'il ne veut pas mourir. Ça ne date pas de Mathusalem, hein, tout ce que je vous raconte là. C'était en 2016. À 47 ans, Sandra a décidé de commencer sa vie. Et ça commence par un rendez-vous chez un psychiatre. Wilfried lui explique tout. Ses doutes depuis l'enfance, son sentiment de bien-être quand il est habillé en femme, sa vie, en quelques minutes. Et la réponse du psy va au-delà de toutes ses espérances.
Dans votre cas, ce que je vois, ce que j'entends, hein, ne laisse strictement aucun doute. Nous n'avons pas besoin de nous revoir. Je vais vous faire l'attestation.
Et le psychiatre signe sous ses yeux le papier qui atteste que Wilfried est transidentitaire. Le papier qui va lui permettre d'entrer dans un protocole de réassignation sexuelle. Et après commence un tour de piste, pour le dire aux gens. À Eric d'abord, ancien de l'équipe de France de canoë. 10 ans d'entraînement et de compétition ensemble. Un ami très cher. Comment va-t-il le prendre? Il est un peu conservateur, Eric.
Eh bien, dis donc, ça me met une claque. Mais tu peux compter sur moi.
Important ce soutien. Et puis il va le dire à ses parents et à sa mère qui dit
« Mais si je te vois en femme, habillée, maquillée, tout ça, je te dirai bonjour madame, ça oui. Mais de là à te considérer comme mon enfant...
Et puis vient le moment où il faut le dire aux enfants, à Tino, à Delia. Ce soir-là, Fabienne est là. Wilfried allume un feu dans la cheminée. C'est pas facile. Il bafouille un peu. Et puis les mots lui viennent, petit à petit.
Je suis une femme. Au fond de moi, je suis une femme. Je peux rien contre ça. Je peux pas aller au bout de ce que je suis depuis tout petit. Ça me condamne au malheur, vous comprenez? Au malheur. Je vais devenir fou si je vais pas au bout.
Et c'est Fabienne qui prend la suite, 28 ans de vie commune.
Je crois que papa a fait tout ce qu'il pouvait pendant longtemps. Pour vous. En partie pour vous. Parce qu'il vous aime. Il voulait que vous soyez heureux. Et lui, aujourd'hui, il a le droit d'être heureux.
Tino se crispe sur un coussin. Il a le menton enfoncé.
C'est réversible. Tu pourras redevenir un homme. Tu crois pas que si tu te faisais hypnotiser, ça s'arrangerait?
Et Delia dit.
J'ai du mal. Mais je comprends. Même si en même temps, je perds mon père.
C'est pas faux. Même si en devenant Sandra, Wilfried reste la même personne. Enfin, ouf, c'est fait. Et à la fin, ça rigole un peu. Première étape franchie. Wilfried, que j'appelle Wilfried pour la dernière fois, est épuisé. Il a son certificat. Sa femme et ses enfants sont au courant. La prochaine étape, c'est de transformer son apparence physique. Et ça commence par le choix du prénom. Pourquoi pas Sandrine? Comme la voisine qu'il jalousait petit. Ou alors Mireille. C'est le prénom que ses parents avaient choisi s'il avait été une fille. Sauf que c'est pas très à la mode, Mireille. Et puis, les parents culpabilisent assez. Non, ça sera pas Mireille. Ça sera Sandra. Prochaine étape, le rendez-vous à Paris avec un endocrinologue.
Est-ce que je peux vous demander comment vous avez décidé de vous appeler?
Oui, Sandra.
Bon, très bien, Sandra. Voilà l'ordonnance pour le traitement hormonal. Et le test à faire dans 3 mois.
En sortant de la consultation, Sandra fonce à la pharmacie et le soir, elle avale ses premiers cachetons d'hormones. Le premier signe de changement apparaît 2 semaines plus tard. La disparition des érections matinales. Sandra ne bande plus au réveil. Mais à part ça, rien. Rendez-vous chez une orthophoniste pour apprendre à parler comme une femme. Et épilation laser, ça fait très mal, très mal. Et pour effacer la barbe notamment, il va falloir 10 séances. Et puis apparaissent les premiers signes de transformation. Les bouts des seins qui démangent. Et puis le visage. Les traits deviennent un peu plus fins, et puis la peau un peu plus douce. Sandra commence à aller au rendez-vous maquillée, habillée en femme. Mais quand il s'agit d'encadrer un stage de canoë auquel participe son fils Tino, là, il y va en homme. Rien n'est simple non plus avec Fabienne. Sandra l'aime encore. Elle en chiale. Un sentiment de gâchis. Et rien n'est simple non plus avec les enfants. Delia, qui a 19 ans, est en crise. Une crise de grande adolescente, assez classique, mais qui un jour se traduit par une phrase terrible.
« Va faire la pute, va ! Va faire la pute !»
Quant aux parents, c'est pas gagné. Au cours d'un repas de famille, la mère ne peut pas s'empêcher de dire
« Installez-vous, les mecs ! Ça va, mon grand ? Ça va, mon Wilfried ?»
Sandra encaisse, et Sandra accepte. Elle accepte de rester un mec pour ses parents, encore quelque temps. Tout ça pour dire qu'on ne passe pas de Rambo à Claire Chazal en 3 mois. L'expression est de Sandra. 16 février, 2 mois de traitement hormonal. Et là tombe un texto de Fabienne. « Tu resteras toujours l'homme de ma vie. Tu auras toujours une place importante dans mon cœur. Il faut juste me laisser le temps de me reconstruire. Énorme bise à mon grand amour et à ma future meilleure amie. Ne pleure plus. Ne pleure plus, tu vas être heureuse. Tu ne m'as pas perdue. »
Cette femme est géniale. Je le savais. C'est ma femme.
Lundi 6 mars. 2 mois et demi de traitement hormonal. 74,7 kg sur la balance.
Putain, fais chier!
Eh oui. Avec l'estrogène, t'avales 500 grammes, tu grossis 1 kilo. Alors fini les ripailles. Sandra doit apprendre à dire
« Non merci, j'ai plus faim. »
Et pendant ce temps, les cheveux qui poussent. Et un copain, lors d'un stage de kayak, qui dit
« Dis donc, maintenant, ça se voit. Hein. Va falloir le dire, hein, parce que les gens vont se poser des questions. Ils vont croire que t'es devenu homosexuel. »
Aïe. Parce que Sandra n'a jamais été attirée par un homme. Jamais, même avant. Et aujourd'hui, elle serait plutôt attirée par le corps d'une femme. Mais vis-à-vis de Fabienne, une femme, c'est impensable. Alors coucher avec un homme? Pour l'instant, c'est pas clair. La route est encore longue. Et pendant tout le printemps 2017, Sandra va s'habiller un coup en homme, un coup en femme, selon les circonstances. En homme pour accompagner Tino au kayak et dans les repas de famille, et en femme à la maison et avec les amis qui acceptent. En juillet, Sandra fait un truc dont elle rêve depuis longtemps. Elle se fait percer les oreilles. Elle va dans une boutique spécialisée, elle s'assoit sur la chaise et... Aïe !
Un problème, madame ? Je vous ai fait mal ? Oh non, pas du tout. Ça fait juste 40 ans que j'attends ce moment-là.
Elle sort de la boutique enchanté. Il lui reste un milieu à convaincre. Son milieu. Le monde sportif, où Sandra est toujours Wilfried, un homme viril. Et là, c'est doublement compliqué parce que Tino, son fils, évolue maintenant dans le même monde. Tino participe au championnat de France de kayak, et son père est son entraîneur. Et dans ce monde-là, Sandra est toujours Wilfried.
J'ai le ventre serré. J'ai mal. Je suis au milieu de rien. Ni homme, ni femme, ni entraîneur, ni père, ni rien. Je me regarde dans le rétroviseur. Je me trouve ridicule.
En juillet 2017, Sandra accompagne son fils Tino à un stage de préparation au championnat de France. Les gens ont bien vu que physiquement, il a changé. Il y en a qui disent qu'il est devenu pédé. Mais comme Fabienne est là aussi, pour l'instant ça passe. La révélation a lieu 1 mois plus tard. Wilfried était président du CREPS, un organisme qui accompagne les sportifs de haut niveau. Sandra l'est toujours. Aujourd'hui, à la fin de la réunion, elle a décidé de tout dire, publiquement. Elle arrive à la réunion en mode très masculin, sans boucle d'oreille.
Bonjour à tous. Nous allons tenir notre conseil d'administration, mais je veux vous dire qu'à la fin de la réunion,
Je vous promets une surprise.
La réunion se passe et arrive le moment de dire les choses.
Je leur raconte ma vie, mon problème identitaire, mes combats, ma certitude de vaincre la transidentité, mes doutes aussi, mes douleurs. Je me livre, je montre mes faiblesses et je leur demande surtout si je dois rester président du CREPS.
Ils applaudissent et le représentant de l'État se lève.
Pour nous, ça ne change rien. Hein? Ça ne doit rien changer d'ailleurs en général. Alors je vous demande officiellement de poursuivre votre mission à la présidence du CREPS.
Je plane. Je les remercie chaleureusement. Au buffet, chacun y va de son message. Ils sont subjugués par mon courage, par ma volonté, par ma détermination.
Et lors des championnats du monde à Pau, les gens viennent la voir.
Courage, ma belle. Continue. Oh, c'est top que t'aies trouvé le courage d'en parler. On te soutient.
Et on lui demande de raconter. Et elle raconte. En février 2018, Sandra subit une opération de chirurgie esthétique. Elle fait affiner les traits de son visage, elle fait refaire son nez, elle fait aussi gommer sa pomme d'Adam. En mars, elle accepte une séance photo avec un photographe du journal L'Équipe. Et dans la foulée, tout le monde la veut. Les radios, les télés, les magazines.
Un portrait ce soir et une histoire, celle d'un chemin de vie. Wilfried Forgues avait remporté le titre de champion olympique en canoë au JO d'Atlanta. 22 ans plus tard, Wilfried a décidé de témoigner sur son changement d'identité. Aujourd'hui, Wilfried est devenu Sandra. Reportage Muriel Lassaga, Olivier Combes.
C'est une femme à l'allure très féminine, souriante. Une femme parmi tant d'autres au milieu de cette foule. Sandra Forgues, ou il y a encore 6 mois, Wilfried Forgues.
Et maintenant, les gens l'interpellent dans la rue.
On est de tout cœur avec vous. Respect à vous, hein. Vous êtes incroyable, top.
Jamais Sandra n'aurait imaginé ça. Devenir une icône et obtenir le respect de tant de gens. 3 mois plus tard, Sandra sort du tribunal de grande instance de Castres avec son changement d'état civil. Elle s'appelle désormais officiellement Madame Sandra Jeanne Wilfried Forgues. La prochaine étape est programmée pour mars 2019 en Thaïlande. L'opération qui fera d'elle une femme à part entière. Ça va, Sandra ?
Oui, ça va très très bien. Je viens de revivre ça avec un coup d'accélération et c'est tellement bien dit, tellement bien raconté.
Ça tient toujours, cette opération, en Thaïlande ?
Alors, oui, complètement ça tient. D'ailleurs, je vais demander un coup de solidarité. Je lance une campagne de crowdfunding, peut-être qui pourra se transformer par la suite en fondation pour des jeunes qui n'ont pas l'argent et qui sont bloqués aujourd'hui, parce qu'en France, c'est pas si facile que ça, même si ça s'améliore.
Mais pourquoi la Thaïlande, justement ?
Alors, la Thaïlande, tout simplement parce que les mœurs, là-bas, ont intégré la transidentité depuis très très longtemps, de très nombreuses années, et beaucoup de chirurgiens sont penchés sur la question bien avant les Français, bien avant beaucoup d'autres pays, où chez nous, nous étions des malades mentaux. Donc, malades mentaux, fallait les soigner surtout de la tête avant de les soigner d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas vous opérer en France ?
Si, tout à fait. Mais par exemple, pour moi, les délais aujourd'hui seraient des 4 ans, 4-5 ans.
Ah oui.
Et donc, le nombre de chirurgiens qui font ça en France se tient dans les doigts d'une main. Quoi. Il y en a 5 à peu près. Tout le monde ne fait pas du très bon travail non plus. Malheureusement, encore en 2018, il y a des gens qui ratent ces opérations et qui, entre guillemets, rendent des gens très malheureux. Alors que bon, ces opérations sont quand même maintenant, même si elles sont très délicates et très compliquées, sont assurées. Et notamment en Thaïlande, il y a d'excellents résultats, en France aussi, mais quand même, quoi, le processus, il est encore dans les mains de personnes qui sont dans l'ancienne équipe où nous étions des malades mentaux et le suivi psychiatrique est très lourd, très long, tout est très long, comme si on avait ça du jour au lendemain, on se réveillait en disant tiens il fait beau mais aussi aujourd'hui je vais devenir une femme. Ouais. Donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir en France, on voit qu'il y a encore beaucoup de questionnements sur d'où ça vient, pourquoi, comment, combien on est de personnes en France à être dans ce cas-là. Et les neurosciences, heureusement, arrivent et commencent à comprendre certaines choses. Mais avant que les neurosciences, on va dire, fassent des preuves ou donnent des pistes très sérieuses, ben les anciennes croyances, la Terre plate, les choses comme ça, persistent au point de la Terre.
Alors, voilà. Ce crowdfunding, là, on vous trouve comment ? Allez-y, c'est
alors,
l'occasion.
Alors, ce sera sponsorise.me, généralement sur les plateformes de sponsors de sport.
Bon, si on tape Sandra Forgue crowdfunding, on le trouve, je suis sûr.
Ça va arriver, ouais. Bon, voilà.
Ça va arriver. Alors, ce qui est frappant quand même, à la fin de cette histoire, puisqu'elle vient de s'achever là, c'est le soutien des gens. J'ai l'impression que ça vous a surpris vous-même.
Oui.
Au final, vous n'avez pas rencontré tant d'adversité que ça. Si ?
Non, j'ai pas rencontré d'adversité en face de moi ou des gens qui sont venus me le voir. Néanmoins, je suis pas dupe. Je sais que mes oreilles ont sifflé, que derrière mon dos, il s'est raconté tout. Parfois, sûrement aussi n'importe quoi. Mais aussi énormément de bienveillance. Et je crois qu'il y a des gens, des personnes, des filles qui sont passées avant moi, qui ont enfoncé des portes, bien verrouillées.
Cadenassées,
merci de m'aider. Et je crois que moi j'arrive pour enfoncer ces portes, mais qui sont déjà entrouvertes. Et donc, ce que j'espère, c'est que les générations d'après moi auront des portes grandes ouvertes. Et c'est vrai que cette bienveillance, j'ai été très surprise. Je m'étais fait des scénarios
dramatiques.
Oui, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui me lance comme ça dans des choses absurdes ou qui n'ont pas de finalité avérée. Et donc, pour moi, tout est calculé. Donc, je m'étais fait un scénario négatif, un scénario très positif. Et ma vérité, elle est bien au-delà du scénario positif. Donc, moi, je suis vraiment très, très heureuse. Mais je ne veux pas être l'arbre qui cache la forêt. Et malheureusement, il y a encore en France énormément de difficultés pour beaucoup d'entre nous. Moi, j'ai la crédibilité de mon titre olympique et de mon diplôme d'ingénieur, de tout ça qui donne, la personne, elle n'est pas complètement tarée. C'est qu'il y a quand même une vérité. Or, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pris au sérieux.
Qui sont plus faibles que vous.
Qui sont plus faibles. Moi, j'ose y aller, j'ose dire les choses, j'ose m'avancer. Mais là, le sport m'a beaucoup aidé. Voilà, on ne prend pas un départ de Jeux olympiques par hasard non plus. On a ce caractère de fonceur et puis de ne pas avoir peur.
Je voudrais qu'on revienne au tout début de l'histoire, au moment de cette médaille d'or. J'ai regardé la vidéo de la remise de la médaille en 96 et cette Marseillaise que vous savourez les yeux fermés. Et je me demandais si la question de ce hiatus incroyable que vous viviez à cette époque était dans vos pensées à ce moment-là, au moment de la Marseillaise.
Non. Vraiment, pour tout dire, au moment de la Marseillaise, j'ai cette sensation très chaude de bonheur absolu, quoi. C'est-à-dire un truc qui vous arrive miraculeux.
Un aboutissement
de moi, j'ai rêvé 6 mois avant qu'un jour, enfin, j'ai rêvé que je gagnais la course.
Ouais.
Puis je me réveille, je suis pas champion olympique. Ouais. Je suis juste même au moment avant les moments des sélections. Et ça me perturbe beaucoup. J'ai mis pourquoi. Mais voilà, on en rêve tellement. Mmh. On travaille des décennies. Il n'y a pas de vacances. C'est plusieurs fois par jour. Et vous allez pour ça. Et il y a très peu de chances d'y arriver parce que tout le monde qui arrive aux Jeux Olympiques est très fort, très musclé, très intelligent, très tout. Et c'est la compétition. Il faut un petit peu de réussite, un petit peu ce jour-là de chance, mais aussi d'abnégation. Et donc non, là, je pense à ma victoire.
À votre victoire. Ouais. Aujourd'hui, ce moment-là, comment est-ce que vous le gérez ? C'est vous ou c'est pas vous ?
Je suis pas schizophrène, justement, ni dédoublement de personnalité. Bien sûr que c'est moi. Mais c'est ce personnage que je créais, même si c'est moi qui le fais, qui le vivais. Mais c'est un petit peu comme un acteur qui rentre dans le personnage de quelqu'un et qui va le vivre. Cette personne, elle se prend pas sauf certains pour Napoléon, mais d'autres, voilà. Et les acteurs vous disent, parfois, ils mettent une semaine, 15 jours à sortir du personnage. Mais en même temps, quand ils rentraient chez eux pour dormir, ils voyaient bien qui ils étaient. Oui. Mais on peut rentrer fortement dans des personnages. Et moi, mon personnage, c'était tout simplement moi. Donc, j'avais pas de mal à ça. Simplement, il fallait que je sois en société. Il fallait que je sois avec du monde. Oui. Il fallait que je sois dans un rôle social parce que moi quand j'étais seul je n'étais pas moi, ça ne me ressemblait pas, ouais. C'est pas ça que je voulais. Là, il y avait un hiatus qui collait pas, et il fallait que je me sente femme pour me sentir bien. Si je restais dans la peau de l'homme, j'avais un malaise profond, et dès que je me sentais femme, ça s'apaisait, ça se calmait.
Donc, vous en faites toujours du canoë?
Alors là, j'ai arrêté depuis 2 ans pour dégonfler du haut, parce que, comme vous l'avez très bien
des
dit...
Des épaules, vous voulez dire.
Des épaules, c'est ça. Parce que oui, le kayak, ça développe. Et puis 15 ans de musculation avec la testostérone, surtout quand j'ai fait les tests oui. d'hormones plus génétiques et tout. Là, j'étais vraiment XY, gros taux de testostérone de champion olympique. Ouais. Et donc, ça veut dire que ça, c'est pas ça qui déclenche ces processus. Mais quand j'étais seul, y compris dans le stage, y compris par exemple au jeu de Barcelone, quand je suis dans ma chambre, on avait des chambres individuelles, j'étais seul dans ma chambre et là je pouvais pas rester un homme, c'était pas possible. Pendant les Jeux Olympiques, donc je devenais une femme dans ma chambre, c'est pas que je devenais une femme, c'est que je devenais moi tout simplement.
Au fond le canoë, ça a été le meilleur allié de votre mensonge, parce que il fallait un truc énorme, il fallait un truc qui envahisse totalement votre vie. Et le sport de haut niveau, c'est ça. C'est le don complet de 10-15 années de sa vie.
Oui, je crois que si ça n'avait pas marché en canoë, si j'avais arrêté plus tôt, si j'étais parti à Toulouse faire mes études sans cette occupation principale qui était le sport, j'aurais craqué. J'aurais craqué avant et je pense que cette transition, je l'aurais fait à l'époque. Peut-être pas dans les conditions d'aujourd'hui. Je serais pas devenu la personne que je suis aujourd'hui, donc je le regrette pas. Au fond de moi, si, je ne regrette, mais tout simplement de pas être né dans un corps de femme, tout simplement. Mais oui, je pense que la vie aurait été très différente.
Alors votre mariage, alors tel que vous le racontez, il y a presque pas de mensonge. C'est un moment très intéressant. On y reviendra tout à l'heure aussi. Le rapport entre cette identité qui est la vôtre et la question de la sexualité est un truc étonnant. Ça n'est pas l'idée qu'on s'en fait, manifestement. Vous l'aimez vraiment, Fabienne. Et ça, évidemment, au regard de votre histoire, on a du mal à comprendre.
Oui, je tombe amoureux de cette personne. Je suis attiré par les filles. Hein, je suis un garçon. Je suis attiré par les filles. Je peux pas dire autrement. Je pense que la sexualité ne se choisit pas non plus à différents niveaux. Et moi, oui, j'aime les filles. Je suis un garçon. On se connaît sur les bancs de la fac d'informatique et vraiment, je tombe en admiration par elle. Elle est un tout petit peu plus âgée que moi. Et je la sens forte, je la sens épanouie, je la sens et en même temps avec cette fragilité de femme que j'adore et qui a besoin d'épaules et moi mon personnage il a toutes ses épaules, il a tout ça et en plus voilà je suis déjà dans le monde du sport de haut niveau, quelque part je la fascine aussi et on tombe amoureux l'un de l'autre et assez vite et je suis jeune, j'ai 21 ans. Et on vit ensemble depuis ce temps-là, enfin on vivait puisque maintenant on est séparés. Mais la séparation pour moi a été terrible et c'est là que j'ai pu mesurer que l'amour était encore quelque chose de différent.
De la sexualité.
De la sexualité, de tout ça.
Même de l'identité. Quoi.
De l'identité complète. Voilà, moi je suis fan de cette personne, complètement gaga.
Elle a été impeccable. Enfin, vous pouvez dire avec justice, elle méritait votre amour.
Ah ben complètement, et puis moi il fallait que tout soit parfait, donc moi il fallait que ce rôle de l'homme protecteur soit parfait, donc je le faisais. Voilà, elle avait ses petits massages de pieds 20 minutes tous les soirs, elle avait, voilà c'était une petite princesse.
Elle savait finalement, bon il y a la séquence où elle découvre vos robes, mais à ce moment-là elle vous dit, ça fait un moment que je m'en doutais.
Non, en fait, 12 ans auparavant, je lui en avais parlé, un tout petit peu, j'avais juste mis le sommet de l'iceberg en me disant, voilà, on est tous un peu homme, un peu femme, moi j'aime bien le vivre davantage, je suis quelqu'un, elle me connaît, qui va au bout des choses, qui aime bien expérimenter aussi des choses, sans avoir peur et en restant dans l'humilité de tout, bien évidemment. J'ai dit, mais ça j'ai besoin, voilà, j'ai un côté féminin un peu plus prononcé, j'ai besoin de le vivre. Et elle était surprise. Elle s'attendait toujours à son homme hein, qu'elle a aimé. Et ça l'a très choquée. On était en construction de notre famille. Et donc, j'ai senti, elle m'a laissé un petit espace de liberté.
Oui.
Et qui lui a été terriblement difficile d'accepter. Mais elle l'a fait, en amour pour moi. Simplement, je la sentais profondément malheureuse. Et moi, ça me cantonnait à une vie que j'avais dépassée déjà depuis longtemps.
Il n'était pas pensable à ce moment-là
de transformer votre couple en couple de lesbiennes.
Non, voilà.
Je ça crois s'est posé que,
ben, elle s'est posé la question de ça, et elle n'est absolument pas attirée par les filles. Physiquement, ça lui est totalement impossible. Donc voilà, je respecte complètement ça, je la comprends complètement. Et non, voilà, ça n'a pas été possible pour elle. Je crois qu'elle s'est vraiment posé la question parce qu'on s'aime vraiment fort, mais ça n'était pas possible pour elle, vraiment. Et elle a tout essayé, mais non.
Alors il y a un passage qui est, moi, qui m'a bouleversé dans votre histoire. C'est le moment où vous annoncez tout ça à vos enfants, Tino et Delia. Leurs réactions sont différentes. Bon, votre fille, ça tombe à un moment où elle est en crise. C'est-à-dire, c'est pas forcément votre histoire qui la met dans la crise. Elle a juste 19 ans et elle déconne, quoi. Point. Mais ça tombe mal, pour le coup.
Oui, c'est une période qui est vraiment difficile pour moi, pour tout le monde, parce que c'est vrai que j'ai quand même cette responsabilité du père de famille à ce moment-là. Donc, plus que même une séparation, une simple séparation, il y avait aussi la perte du repère du père.
Oui. Et elle en avait besoin à ce moment-là.
Ben, elle en avait besoin. Après, je pense qu'un enfant qui naît avec deux mères ou deux pères, c'est pas un problème parce que ce sont ses repères. Comme quelqu'un qui naît sans bras, il vous dit mais pourquoi j'aurais des bras Voilà, celui qui les perd en cours de route, lui, il va pas dire la même chose. Donc, c'est un petit peu ça l'histoire de mes enfants, c'est qu'ils avaient un père, eux. Oui. Et d'un coup, le père, il dit mais non, mais moi, je suis une femme. Alors imaginez quand vous avez 17, 15, même 16 pour Tino et 19 pour Delia, qui sont en crise d'identité eux-mêmes, qui sont en crise de repère eux-mêmes, un petit peu en difficulté à l'école d'un système qui ne les veut pas. Derrière, j'annonce ça, donc je ne fais que compliquer l'affaire. Et moi, j'ai très peur, j'ai très très peur. J'ai pas fait aussi de transition plus tôt à cause de tout ça, bien évidemment.
Alors que dans ma tête,
J'attendais, je savais pas quoi j'attendais, mais j'attendais, voilà. Et si Fabien n'était pas tombé sur mes affaires, ça aurait pu durer encore quelques mois, quelques années, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je n'en pouvais plus déjà, et je souffrais déjà.
Votre fils, c'est forcément identitaire, parce que donc, c'est un mec, il s'est bâti sur votre modèle, et le modèle se dérobe devant lui.
Oui, c'est ça. Et puis d'un coup, il comprend pas. Il dit, ça, c'était le modèle d'un homme, mais en fait, c'est pas un homme. Donc moi, il faut que je sois encore un homme plus viril, plus macho, plus.
Il a roulé des mécaniques.
Donc, il a roulé les mécaniques. Ça l'a desservi.
Il restera toujours une petite blessure avec eux.
Non.
Ils disent quoi aujourd'hui? Ils disent que vous êtes qui?
Ben là, je viens d'éteindre mon téléphone parce que ma fille m'appelle 10 fois par jour.
Mais elle vous appelle Sandra?
Bien sûr, maintenant, elle me soutient à fond, elle est très fière de moi, elle a compris, ils ont compris, il a fallu 2 ans, il a fallu tout ce temps-là pour d'abord digérer, puis comprendre, puis pour s'apercevoir que la personne dont ils ont besoin, parce que quand on a un repère d'un père, c'est qu'on a aussi besoin de ce père, on a besoin de ce qu'il va aider, il va porter, il va transformer leurs doutes, et moi cette personne elle est toujours là, donc moi avec eux, ben, malgré mon look féminin ou ma voix un petit peu plus féminine, je la ramène ce savoir d'homme, je le connais par cœur, donc quand ils en ont besoin je sais leur ressortir.
Quand il y a un copain à côté qui vous présente, ils disent quoi? Ils disent pas c'est mon père, ils disent pas c'est ma mère.
Ah, si.
Ils disent c'est mon père.
Non, ils disent c'est mon père, ils m'appellent papa.
Oui, ils vous appellent papa toujours?
Ah, bien sûr, oui. Ah ouais. Alors ça dépend quoi, des fois c'est rigolo, dans les supermarchés ou dans les magasins.
Ils vous appellent papa.
Ouais, ma fille, elle essaye de m'appeler Sand, voilà. Après, non, Tino, il m'appelle papa tout le temps. Mais c'est pas grave, ça, moi. Dans la mesure où il m'accepte et qu'il me parle sans aucune retenue et qu'il vive sans aucune retenue avec moi, voilà, c'est quelque chose qui... Moi, je fais ma vie telle que je la ressens. Eux, ils se construisent, ils n'ont plus honte, parce que tout simplement, ils n'ont jamais eu aucun retour négatif. Donc, ils avaient peur aussi de ça. Mes parents, c'est pareil. Ma mère, elle me soutient à fond.
Il y a eu du ressentiment. C'est ce qui a été le plus dur, c'est avec vos parents.
Oui, parce que je pense que souvent, c'est le cas avec les pères. Les pères qui se construisent avec leurs fils et puis... Il y a une projection qui se fait naturelle et c'est très douloureux pour les pères parce qu'ils culpabilisent encore plus. Ils disent il y a un truc que j'ai raté ou il y a un truc que j'ai pas fait. Ce qui est strictement faux. Aujourd'hui, toutes les études sociologiques montrent qu'il n'y a rien à voir entre l'éducation que vous recevez parents et enfants. C'est un contexte beaucoup plus global, social.
Alors, il y a un truc évidemment qui m'a passionné, moi, c'est cette déconnexion entre votre identité de femme et la question de la sexualité. Vous aussi, d'ailleurs, ça vous a troublé, parce que... et vous n'êtes pas la première à soulever ce problème. Ça n'est pas parce qu'un homme devient une femme ou qu'une femme devient un homme qu'elle change de sexualité.
on trouve de tous les cas, en fait. Voilà. C'est et moi je voulais plus mettre de tabou. Je veux dire que le fait de ma transition était déjà suffisant.
Passer les bornes, il n'y a plus de limite.
Ouais, voilà, c'est ça. On peut y aller, allons-y. Donc moi je me suis dit, réfléchis à ce que tu as envie, ce que tu ressens. Et cette sexualité, là, je le garantis, elle est totalement déconnectée de la transidentité. Après, voilà, une femme qui, un homme qui devient une femme, puis qui reste attiré par les femmes et qui veut vivre avec une femme, ça existe. Hein, Olivia Chaumont, c'est ce qu'elle a dit, même si elle a essayé les garçons. Il y en a d'autres qui changent, hein, comme Mathilde Daudet, elle a complètement changé, elle était hétéro-homme, elle est hétéro-femme. Mmh. Et moi, j'étais dans le flou le plus total, d'autant plus qu'un des médicaments que je prends est un tue-l'amour renommé. Donc, d'ailleurs, je me disais, tiens, avec la perte de la libido, ça va donner quoi? Est-ce que ma transidentité va en pâtir? Est-ce qu'il y a un brin de sexualité là-dedans ou pas? Et au contraire, avec la perte de la libido, ma transidentité s'est renforcée encore plus.
Parce que c'est ça le fond du truc, c'est qu'il y a une perte de libido.
Par rapport aux médicaments, alors pas tous, hein, tous ne le ressentent pas, mais c'est quand même un médicament connu pour ça, et moi ça a très bien marché.
Et vous avez, alors ça je ne l'ai pas raconté, mais vous avez quand même été, il y a un moment où dans le livre vous racontez qu'il y a un Africain, un de ces Africains qui prennent les gens pour des gogos sur Internet, bon, on sent qu'il vous chauffe un peu et que ça ne vous déplaît pas. Est-ce que vous avez fait du chemin là-dessus avec lui?
Oui, j'ai fait du chemin là-dessus, ouais. Assez récemment d'ailleurs,
bon.
C'est très récent. Voilà.
Je vous remercie beaucoup, Sandra, d'avoir accepté de nous confier toute cette intimité. Votre histoire est une des plus belles histoires que j'ai eu à raconter depuis 3 ans que je fais cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, Un jour, peut-être, aux éditions Outdoor. Merci, Sandra.
Merci à vous.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.